Bonjour.
Bonjour.
L'événement du jour est donc à lire dans deux journaux ce matin, La Croix et Libération qui publient ensemble l'interview d'Emmanuel Macron à propos de la future loi sur l'aide à mourir.
Procédé rare pour une annonce à la fois solennelle et délicate, le choix de ces deux journaux montre que le président de la République a décidé de s'adresser d'abord aux catholiques et à la gauche. Avec cette loi, dit-il, on regarde la mort en face. C'est cette phrase que La Croix et Libération ont choisi tous les deux comme titre. Pour le reste, les deux journaux divergent. Libération approuve que le chef de l'État ait changé d'avis sur le sujet de la fin de vie et qu'il ouvre enfin la voie à une forme de suicide assisté, même si Emmanuel Macron ne reprend pas ce terme, en rappelant que les Français y sont nettement favorables. La Croix, en revanche, prévient ses lecteurs en ces termes. Publier cet entretien ne signifie pas que nous soutenons ce projet de loi.
L'éditorial du quotidien catholique est d'ailleurs intitulé « Inquiétude ».
Étrange utilisation, détournement même de la valeur de fraternité, écrit l'éditorialiste de La Croix, nous manquons de médecins, la crise des hôpitaux est dramatique et l'offre de soins palliatifs reste insuffisante. La demande d'assistance au suicide risque, dans ces conditions, d'être un choix par défaut. C'est intolérable. La fraternité serait mieux placée dans l'aide à vivre que dans l'aide à mourir. Dans le même esprit, la psychologue Marie de Henzel s'adresse à Emmanuel Macron dans Ouest-France pour invoquer le danger d'une loi qui établira un continuum entre les soins de fin de vie et l'euthanasie. Et dans Le Figaro, le sociologue Jean-Pierre Le Goff dénonce une loi qui, selon lui, bouleverserait l'éthique et la pratique médicale et ferait pression sur nombre de personnes âgées esseulées qui auraient le sentiment d'être un fardeau dans une société obnubilée par l'économie et la performance. On le voit, le débat ne fait que commencer.
Dans la presse également, grandeur et misère des entreprises françaises, il y a celles qui gagnent gros et celles qui perdent tout.
Plus les entreprises sont grosses, plus elles gagnent. Les Échos reviennent en détail sur la performance des sociétés du CAC 40, dont les profits ont dépassé 145 milliards d'euros en 2023. Le journal signale que Air Liquide est devenue la huitième entreprise du CAC à franchir les 100 milliards de capitalisation et que plus de la moitié des sociétés du CAC ont réduit leurs dettes ou augmenté leur trésorerie disponible l'an dernier. Tout à l'autre bout du spectre, Le Parisien met en lumière ce triste record. 51 555 patrons ont perdu leur emploi en 2023. C'est le pire chiffre depuis 7 ans. Ce sont principalement des patrons de très petites entreprises, les TPE comme on dit, le plus souvent familiales et surtout dans le BTP, l'immobilier et la restauration. Entreprendre reste un métier à risque et 99% des chefs d'entreprise, lit-on dans Le Parisien, ne souscrivent aucune assurance chômage. En cas de faillite, ils se retrouvent endettés et sans ressources.
Sur le site de Courrier International, un autre regard sur la transformation du marché de l'automobile. On en parlait à l'instant avec Jean-Dominique Senard. Les Français délaissent peu à peu les autoroutes.
Il faut souvent un regard étranger pour mieux observer nos étrangetés. Le Soir de Bruxelles revient sur un sondage du mois dernier d'où il ressort que 65% de nos compatriotes n'empruntent plus les autoroutes à cause du tarif des péages. En 2023, il a augmenté de 4,75% et ce tarif, rappelons-le, est indexé sur l'inflation, contrairement au salaire. À tout prendre, les Français préfèrent perdre leur temps que leur argent, écrit le journal belge qui rappelle le débat lancé sur la renationalisation des autoroutes dont les concessions expirent à partir de 2031. En attendant, une loi de 1995 dispose encore que tout territoire doit se trouver à moins de 50 km d'un échangeur autoroutier. Je suis sûr que vous ne le saviez pas ça, David.
Non. Non.
En réalité, la voiture est devenue, selon Le Soir de Bruxelles, la caricature d'un pays à deux vitesses, description un peu caricaturale elle-même. Les urbains en auraient de moins en moins des voitures et rouleraient plutôt propres. Les ruraux, eux, ne peuvent pas s'en passer, quitte à conduire de vieilles guimbardes polluantes. C'est ce qu'écrit Le Soir. Rappelons quand même, puisque Le Soir ne le fait pas, qu'il y a moins d'accidents mortels sur les autoroutes que sur les routes.
En Grande-Bretagne, une photo de Kate Middleton avec ses enfants diffusée hier par la couronne britannique relance les spéculations sur l'état de santé de la princesse.
Oui, encore une communication ratée à Buckingham et à la cour d'Angleterre. Kate Middleton va-t-elle vraiment bien ? Questionne le site de Madame Figaro ce matin. Le cliché controversé a été publié hier parce que c'était le jour de la fête des mères au Royaume-Uni. La princesse de Galles a été opérée mi-janvier sans que l'on sache exactement de quoi elle souffrait. forêts. Et depuis, elle est quasiment invisible. Deux médias américains ont publié lundi dernier une photo volée de Kate Middleton en voiture avec sa mère portant de grosses lunettes noires. La photographie d'hier, elle, montre la princesse resplendissante, entourée de ses trois enfants. Mais voilà, des détails troublants ont très vite été remarqués. Elle ne porte pas d'alliance, il y a des problèmes de proportion, des défauts d'alignement. Selon 20 minutes, les agences de presse et les sites britanniques ont retiré l'image dont ils considèrent qu'elle a été manipulée. Le Palais Royal, lui, n'a livré aucun commentaire sur tout cela. Ce silence n'est pas d'or, mais de plomb.
On termine avec cette information du Figaro. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à diriger des orchestres.
Enquête publiée à l'occasion du troisième concours La Maestra, co-organisé par la Philharmonie de Paris et le Paris Mozart Orchestra. 14 jeunes femmes de 12 nationalités âgées de 19 à 42 ans s'y affrontent. Des prétendantes d'Azerbaïdjan et de Palestine se présentent pour la première fois. Et ce concours est la voie royale pour une carrière internationale. Le Figaro relève que 14 est aussi le nombre de femmes figurant dans le top 100 des chefs d'orchestre les plus actifs du monde, c'est-à-dire ceux qui dirigent au moins 26 concerts dans l'année. Cela montre une dynamique, mais il ne faut pas s'arrêter là, dit la chef du Paris Mozart Orchestra, Claire Gibault. De fait, ces deux dernières années, seules 17 femmes ont été nommées à un poste de direction musicale, c'est-à-dire à la tête d'une salle ou d'un opéra, contre 162 hommes. 22 compositrices figuraient dans le top 200 des auteurs les plus joués en 2023. Elles ne font pas encore marcher tous les hommes à la baguette, mais il y a du progrès.
Et je me permets de vous conseiller, si vous ne l'avez pas vu, ce remarquable film qui s'appelle Tar et qui raconte la vie, la dérive de pouvoir et de contrôle d'une chef d'orchestre. C'est absolument remarquable. Tar, avec un accent circonflexe ou grave sur le A. Merci à Vega Tegno.
À demain.
Tout de suite, esprit, à suivre, Esprit Libre avec Luc Ferry.